Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Toc toc toc, c'est Karl, ouvrez-moi. Quand un aspirant couturier rencontre celui qui va lui apprendre le métier, c'est un récit sur mesure que nous propose Stéphane Bern avec Pierre Balmain, l'homme qui a repéré et embauché en premier Karl Lagerfeld. Et l'histoire a prouvé qu'il a plutôt bien fait.
C'est un manteau de lainage jaune à l'encolure droite, imitant une ceinture et au dos décolleté en V. Il est original, parfaitement taillé, et il s'apprête à lancer la carrière de Karl Lagerfeld. Nous sommes en novembre 1954 et le jeune modéliste vient de remporter le concours du secrétariat international de la laine. Dans le jury, le tout jeune créateur d'une vingtaine d'années n'a pas échappé aux yeux d'un connaisseur déjà célèbre dans le monde de la mode, Pierre Balmain. En 1954, la maison Balmain a 10 ans. 10 ans déjà, ou 10 ans seulement, car une petite décennie a suffi à son créateur pour en faire l'un des plus grands acteurs mondiaux de la haute couture. Pierre Balmain est né en 1914 à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Enfant, il joue avec des poupées de papier de soie qu'il habille comme des mannequins, minuscules chaussures taillées dans des bouts de cuir et robes coupées dans des échantillons de tissu. La mode le fascine, mais pour rassurer ses parents, il choisit un domaine d'études plus sérieux, l'architecture. Un dimanche de 1932, le jeune Savoyard découvre ébloui la capitale française où il s'installe pour suivre les cours de l'école des Beaux-Arts. Il a 18 ans et l'ambition avouée de conquérir Paris. Alors, dans son costume réalisé par le meilleur tailleur de Chambéry, Pierre Balmain démarche les plus grands créateurs. Il vend d'abord 3 dessins pour 90 francs à Robert Piguet, ancien assistant de Paul Poiret et prince de la mode des années 30, comme il était surnommé. Recommandé par ses soins, Balmain entre ensuite au service d'Édouard Molineux, autre grand couturier anglais, celui-là, du moment. Continuez vos études d'architecture et travaillez ici l'après-midi. Dans un mois, je vous dirai si vous devez abandonner l'un ou l'autre. Très vite, Pierre Balmain arrête les Beaux-Arts. Au contact de son maître, il apprend à construire parfaitement un vêtement et à en retirer tout ce qui peut l'être pour ne garder que l'essentiel ou comment faire passer un message en peu de mots. En 1941, après 2 ans de mobilisation sur le front, Balmain entre chez Lucien Lelong, encore un très grand nom de la couture. Il lui confie la responsabilité de l'entièreté de ses collections avec l'aide d'un autre jeune homme fraîchement engagé, un certain Christian Dior. Chez Lelong, Pierre Balmain impose déjà son style et son talent, en créant notamment une robe toute simple de crêpe noire, baptisée Petit Profit, et qui rencontre un franc succès auprès des clientes. En 1945, Pierre Balmain n'y tient plus. Il lance sa propre maison. La période n'est pourtant pas facile. La guerre est certes finie, mais rien ne fonctionne normalement. Les tissus sont rationnés, les 3 étages que le couturier vient de louer rue François 1er à quelques pas des Champs-Élysées sont immédiatement réquisitionnés par le ministère de l'Économie. Les 16 couturières se replient alors sur un seul étage et occupent toutes les pièces, y compris la cuisine. Pour pallier les incessantes coupures d'électricité, on s'éclaire à la lampe à gaz. Une des premières robes confectionnées tout en tulle prend feu le jour de la livraison. Furieuse, la cliente annule toute sa commande, soit 5 robes déjà réalisées, ce qui menace de couler l'entreprise naissante. Pourtant, le succès ne se fait pas attendre. Gertrude Stein, l'influente écrivaine et collectionneuse d'art américaine, consacre à Balmain le seul article qu'elle ait jamais écrit sur la mode. Grâce à elle, la presse anglo-saxonne s'intéresse tout de suite à la marque. Dès 1945, le Time publie une photo d'une robe de la maison. La même année, Cecil Beaton en photographie un autre modèle pour Vogue. En 1946, Alice Toklas, femme de lettres et compagne de Gertrude Stein, loue la renaissance de l'élégance parisienne dans un texte de présentation de la collection Balmain. Le portfolio est intitulé « New French Style », l'expression fera date. Pierre Balmain rompt avec le principe de mode fonctionnel pour renouer avec un style très féminin et sophistiqué. Les épaules sont structurées, la taille est marquée et les hanches légèrement accentuées. Les jupes évasées commencent à se raccourcir. Leur coquetterie assumée font bientôt de la maison l'incarnation de l'élégance à la française. La jolie madame de Pierre Balmain, nom de la collection de l'hiver 52, dévoile des modèles raffinés à la coupe impeccable dans des matières confortables en jersey, en flanelle ou en soie et dans les tons sombres. Pierre Balmain aime le noir. C'est, selon lui, la couleur du chic et de la jeunesse. Le soir se prête à davantage d'extravagance, avec des rouges et des bleus profonds, des froufrous de tulle et de dentelles brodées, et déjà des effets de contraste et de transparence. Les activités mondaines ont repris, l'heure est à la fête, la vie sourit aux audacieuses. C'est au cours de cette décennie, de tous les succès, que la maison Balmain accueille le tout jeune Karl Lagerfeld. Il a quitté son Allemagne natale 2 ans plus tôt. Auprès de Monsieur Balmain, Karl est assistant modéliste et fait ses premières armes. Il y restera plusieurs années avant de prendre la direction artistique de la maison Patou, puis celle de Chloé. Mais au contact de son mentor, Karl Lagerfeld ne va pas apprendre que la couture. Car Pierre Balmain, s'il est un technicien hors pair, est aussi un subtil homme d'affaires. Karl va apprendre comment on fait des robes et comment on fait de l'argent. Dès sa première collection, Pierre Balmain lance un parfum, Élysée 6483, hommage au numéro de téléphone de son salon de couture. Viennent ensuite Vent Vert et Jolie Madame. Le parfum est comme l'émotion qui doit rester après le passage d'une dame élégante. Il est aussi, pour tous les grands couturiers, un moyen de remplir les caisses. De Lucien Lelon, Pierre Balmain a également appris à élargir son offre. En 1934 déjà, le couturier avait proposé une gamme de prêt-à-porter. 80 modèles disponibles en 5 tailles pour 2 fois moins cher que sa haute couture. En 1954, Balmain lance à son tour une collection de prêt-à-porter. L'objectif est d'attirer une clientèle plus importante et surtout plus jeune. Et pour la séduire, quelles meilleures ambassadrices que les stars de cinéma. Balmain les habille à la ville comme à l'écran. Katharina Hepburn, Marlène Dietrich, Josephine Baker ou la très glamour Sophia Loren font partie de ses clientes fidèles. En septembre 1954, il confectionne la robe de mariée d'Audrey Hepburn, une merveille du genre, jupon évasé à mi-mollet, taille cintrée, col montant et manches bouffantes, complétée par de longs gants blancs. L'actrice a acquis une célébrité mondiale l'année précédente avec la sortie du film Vacances romaines, pour lequel elle a remporté un Oscar. Un très joli coup de pub. En France aussi, Pierre Balmain a ses représentantes, des personnalités très en vue comme Brigitte Bardot, Dalida, Juliette Gréco. Une telle notoriété est précieuse pour la maison de couture, bien avant les sœurs Kardashian qui ne jurent que par l'actuel directeur artistique de la marque, Olivier Rousteing, il existe déjà une Balmain Army, chargée de promouvoir la griffe à travers le monde. À la fin des années 60, Pierre Balmain dessine les tenues des hôtesses des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble, du personnel de bord de la compagnie Singapore Airlines, donnant à voir la haute couture à un public plus large. Ce que fera Karl Lagerfeld en signant des collaborations avec des marques très grand public comme H&M ou Coca-Cola. Le décès de M. Balmain en 1982 à seulement 68 ans est un coup dur pour sa maison. Mais elle lui a survécu et reste aujourd'hui, grâce à son action, l'un des grands noms du luxe dans le monde. Karl Lagerfeld en aura été un digne héritier.
Europe 1, historiquement vôtre.